Bienvenue sur Limitless Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Alors je suis aujourd'hui à deux pas de chez moi, à Palavas-les-Flots, chez mon ostéo, Mathieu Le Turc, avec qui on va essayer de percer les mystères de la mécanique humaine et du corps humain. Salut Mathieu.
Salut.
Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter et nous raconter un peu qui tu es et ce que tu fais?
Alors moi je suis Mathieu Le Turc, je suis ostéopathe depuis maintenant 10 ans, je travaille donc sur Palavas, j'habitais pas très loin d'ici, maintenant j'habite à la Grande Motte, j'exerce dans l'ancienne maison de ma grand-mère, donc je suis issu de cette rue, voilà, et quand j'ai eu mon diplôme j'ai eu envie de revenir proche de mes racines et surtout proche de la mer. J'ai en parallèle de mon activité de libéral un organisme de formation où on forme des ostéos, donc on est basé sur Montpellier et on fait ça avec deux associés. Et mon activité libérale, ouais, j'ai la chance de la partager aussi avec ma femme qui est aussi mon associée et dans la vie et au travail. Donc voilà, on va fêter nos 10 ans de cabinet. Cette année.
Les conversations sur l'oreiller doivent être assez tournées sur la pratique.
On évite de trop ramener ça à la maison parce que sinon on tourne un peu en rond ostéo toute la journée, ostéo à la maison. Mais ouais, c'est sûr que ça permet quand même d'échanger parce qu'on est que deux à bosser ici et que deux ostéos. Donc voilà, des fois on se sent un peu seul. Donc heureusement maintenant il y a WhatsApp et Messenger qui permettent d'échanger avec kiné, médecin, avec qui on bosse autour pour aller plus vite.
Super. Et l'ostéo, c'est une pratique récente, mais qui devient quand même de plus en plus populaire, donc qui commence à être un petit peu à la mode. Et pour autant, j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter en quoi ça consiste et comment ça se différencie de la kiné, par exemple?
Alors, c'est toujours le gros sujet, la différence entre ostéo et kiné. Il faut pas le voir comme une différence, c'est vraiment une complémentarité. On n'a pas du tout les mêmes champs d'action. Déjà, la kiné, c'est une profession de santé. Donc, ça, déjà, comme les médecins, comme les sages-femmes, comme les dentistes, il y a une idée de rééducation dans la kiné, que ce soit après une opération, après un accident, une rééducation du dos aussi. Enfin voilà, de côté. Réathlétisation, réhabilitation et travail d'une spécificité, d'une articulation spécifique, après une entorse, après une prothèse, après plein de choses, même si maintenant la sécu dérembourse un petit peu certains actes. Mais voilà, la kiné, il y a vraiment cette vision de réadaptation. Nous, en ostéo, on est vraiment plus sur... de la globalité, en post-opératoire, en direct, on n'a rien à faire dans le parcours de rééducation, juste en sortie de clinique ou d'opération. On va essayer d'être là pour prévenir des problèmes, pour aider le patient à en régler d'autres. Mais voilà, on est vraiment dans cette vision de globalité, de dire tu as mal à la cheville, je ne vais pas m'occuper que de ta cheville. Je vais regarder s'il n'y a pas un souci au niveau du genou, du bassin, ta colonne vertébrale, parce que c'est de là où sortent les terminaisons nerveuses. Voilà, d'avoir vraiment cette vision pour tout type de mots, mais toujours dans l'idée de globalité. On est vraiment comme des généralistes, quoi. On voit vraiment de la tête aux pieds. Et notre base, c'est vraiment la mobilité. On est vraiment là pour redonner de la mobilité, redonner de l'équilibre. On n'est pas là pour... faire craquer les gens de la tête aux pieds et se dire dans notre tête on va les remettre le plus droit possible. Non, ça existe pas. On a vraiment cette notion de mécanique et de dire la vie de tous les jours fait que tu t'adaptes, ton ordi il est mal placé ou ton boulot il est récurrent avec un bras ou une jambe. ben ton corps il va s'adapter à ça parce que il va se dire bah tous les jours tu me donnes cette information là, moi je vais me mettre dans cette position là et plus aller dans l'autre. Donc voilà, on est là juste pour rééquilibrer ces maux et puis ça peut être du musculo-squelettique, ça peut être du digestif, ça peut être des maux de tête, enfin le champ de travail il est énorme quoi, ça peut être du sommeil. Voilà, juste parce que des petits déséquilibres comme ça peuvent t'apporter différents maux. Pas que j'ai mal au dos.
Et donc, justement, je pense que c'est un peu de là que vient l'image un peu mystique, magique de l'ostéopathie. C'est que quand tu vas voir un kiné, un médecin, en général, il y a une blessure et il y a un protocole de rééducation qui, petit à petit, te permet d'aller mieux. Donc, tu vois l'impact sur ta santé, sur ton évolution. Tu peux mesurer, c'est facilement mesurable. À l'inverse, l'ostéopathie se pratique peut-être plutôt en prévention. Et t'as l'intuition que ça te fait du bien, mais rien de vraiment tangible qui te le montre sur le moment, d'une part.
On n'a pas d'études en fait. Hein.
Ouais, comment est-ce que une action à un moment donné peut avoir une action durable et un effet durable et positif sur ta santé sur le long terme? Comment est-ce que le fait d'aller te voir une fois aujourd'hui va pouvoir rééquilibrer ou réorganiser mon corps et me permettre d'aller mieux dans ma vie quotidienne?
Ben, techniquement, ça l'est pas sur le très long terme. C'est pas en faisant un truc aujourd'hui sans te connaître que ça va réparer une vie de déséquilibre. Quand je parle de déséquilibre, c'est physique, hein. C'est pas dans la tête, hein. Ça me regarde pas. Mais voilà, non, c'est vraiment. On est là sur un patient, sur une première fois, sur une page blanche, quoi. Hein, et après, on va essayer nous. Ben, comme quand tu amènes ta voiture chez le garagiste parce qu'elle a un problème, parce qu'elle fait un bruit, parce qu'elle fonctionne moins bien, ben, elle le fait peut-être depuis 2 mois, 3 mois, et le garagiste, en faisant 2-3 petites manipulations, il va arriver à remettre le problème d'aplomb. Le corps, il est hyper... C'est très compliqué, mais voilà, c'est pas non plus si... l'équilibre, il le retrouve... quand tu es en bonne santé, il le retrouve assez naturellement. Et c'est vraiment cette vision d'équilibre qu'il faut avoir, de dire... Le corps, il est feignant, il veut travailler le moins possible, et pour travailler le moins possible, il faut qu'il y ait le moins de force à mettre. Donc, dès qu'on va trouver une position d'équilibre, ben, le corps, il va moins forcer à droite, moins forcer à gauche, il va être plus centré, et du coup, tout va mieux fonctionner. Donc, après, il y a plein de strates psychologiques, énergétiques, enfin voilà, il y a plein d'autres actions en touchant quelqu'un qui vont se mettre en route, que moi, je maîtrise moins. Donc moi je me base vraiment sur ma pratique mécanique, mais voilà, la mécanique c'est pas que du cracking non plus, ça peut être d'autres outils qu'il y a dans la boîte à outils de l'ostéo, mais voilà, c'est vraiment cette vision, toujours cette vision de globalité, de dire le corps, il y a peut-être un petit grain de sable qui va le gêner, ben nous on est déjà, moi je soigne personne, c'est les gens qui se soignent, moi je leur donne juste 2-3 petites clés pour que leur corps il arrive à passer à autre chose, mais voilà, c'est vraiment cette recherche d'équilibre. Donc il y a un petit grain de sable, ben en enlevant ce grain de sable, ben tous les rouages ils vont arriver à mieux fonctionner les uns avec les autres, et c'est ça qui va faire que tu te sens mieux, que tu dors mieux, et après c'est une réaction en chaîne positive, au lieu d'être dans le truc de ah, j'ai un blocage, je bouge moins bien, mon corps il se protège. Ça me fatigue un petit peu parce qu'il est obligé de travailler un petit peu plus pour récupérer ce problème-là. Il y a une inflammation, j'ai mal, je dors moins. Du coup, le matin, je suis un peu plus raide parce que j'ai un peu moins bien dormi. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on est là vraiment pour essayer de casser ces réflexes, ces cercles vicieux, quoi, en fait.
Tu le sais, produire un épisode de Limitless Project, ça prend du temps, ça demande de l'énergie. Et depuis que j'enregistre en studio... ça me coûte 400 euros par épisode. Vous êtes nombreux à me demander comment me soutenir. Aujourd'hui, j'ai une réponse claire. Il s'appelle la routine des audacieux. C'est une véritable boîte à outils. J'y partage tous les protocoles, les hacks et les routines que j'ai testées, affinées et intégrées dans ma vie ces 5 dernières années. Le but, t'aider à libérer ton plein potentiel. Sans t'imposer des méthodes ultra complexes ou des gadgets hors de prix. C'est vraiment la loi de Pareto appliquée à la santé, la longévité et la performance. Le livre sort début septembre, mais tu peux déjà le précommander. Et c'est crucial, plus il y a de précommandes, plus les libraires s'y intéressent et plus ce projet a de chances d'exister en grand. Alors si tu veux me donner un coup de main et soutenir ce projet en investissant 20 euros dès aujourd'hui, Le lien de précommande est dans la description de l'épisode. Merci infiniment pour ton soutien.
Si chez Matisse, par exemple, je viens de voir et j'ai une épaule qui est un peu plus basse que l'autre ou le bassin qui est un peu vrillé, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas, entre guillemets, forcer pour essayer de le remettre d'équerre. Et après, quand je vais sortir, mon corps aura plus besoin de compenser parce qu'il sera droit. Et donc, le déséquilibre qui existait risque de ne pas se recréer parce que le corps est bien et donc il est bien équilibré, bien organisé et il fonctionne parfaitement.
On va vraiment, comme je te disais tout à l'heure, surtout parler de mobilité. Et de dire, moi, si t'arrives et que t'as une épaule plus basse que l'autre, si ton corps, il fonctionne bien, qu'il bouge bien, et pareil pour ton bassin,
c'est pas
grave. Y a aucune raison que quelqu'un qui a une scoliose, qui s'est adapté comme ça, qui aura un déséquilibre au niveau des épaules, un déséquilibre au niveau du bassin, un déséquilibre au niveau de la colonne vertébrale, s'il a pas mal, si j'essaye de le remettre droit, je vais lui faire plus de mal que de bien. Donc non, il faut toujours, nous, l'examen visuel, il nous sert à quelque chose, mais l'examen qui nous sert le plus, c'est l'examen palpatoire, c'est de dire, on va tester les articulations. Moi, si tes épaules, elles fonctionnent bien, que ta colonne vertébrale, elle fonctionne bien, qu'il n'y a pas de gros point qui va me gêner de blocage, il n'y a aucune raison que j'essaye de te remettre les épaules droites si tu fonctionnes bien comme ça.
On n'est pas fait pour être parfaitement symétrique.
Personne n'est symétrique. On a tous une différence. Si tu prends un miroir, là, que tu le mets au niveau de ton nez, ou un carton, tu regardes dans le miroir, t'auras un œil plus fermé que l'autre, la face qui sera plus développée d'un côté, le menton un peu de travers. Voilà, et c'est tout le monde. Et comme la différence de longueur, on parle souvent de différence de longueur de jambe, on a tous une différence, 95% de la population a une différence de longueur de jambe.
Et parce que tu parles beaucoup de mobilité, quand on manque de mobilité, on dit souvent qu'il faut faire beaucoup d'étirements, etc. pour réussir à progresser. Comment est-ce que toi, en une seule séance de 40 minutes, t'arrives à avoir une action réelle et concrète là-dessus?
Parce qu'il y a différentes mobilités. Il y a l'élasticité musculaire, il y a la souplesse, entre guillemets, ligamentaire. Donc, c'est souvent ce qu'on appelle la laxité. On peut être très lax et raide musculaire. Et il y a aussi la mobilité articulaire. Moi, ce sur quoi je travaille, c'est surtout la mobilité articulaire. C'est pas, je te rends pas souple en une séance de 40 minutes. Mmh. Ça, c'est tes devoirs à la maison. C'est le boulot que t'as à faire à côté, quoi. Moi, je suis vraiment là pour... Il y a une articulation qui se bloque, ou plusieurs. Je suis là pour leur redonner de la mobilité aux articulations. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, souvent, après la séance, c'est pas en claquant des doigts que t'as récupéré toute ta mobilité. Il faut souvent quelques jours derrière. Ben, voilà, moi, je dis souvent que la mise à jour, elle se fasse. Mais voilà, il faut que le corps, il s'habitue aux nouvelles données. Et c'est sûr que si derrière, tu vas... rentrer chez toi, te mettre sur ton bureau, l'ordinateur sur ta droite, les jambes croisées, assis dans une mauvaise chaise, derrière, les infos qu'on aura données pendant la séance, elles seront un petit peu parasitées par ces nouvelles infos que toi tu vas donner en rentrant chez toi. Donc c'est pour ça, notre boulot, c'est aussi d'essayer de conseiller un petit peu et de trouver qu'est-ce qui va pas dans la vie de tous les jours, quoi. On peut pas tout régler. Encore une fois, moi, quelqu'un qui est informaticien, qui travaille sur un ordi portable, qui a les mains posées, les coudes dans le vide, et qui a l'ordinateur à 90 degrés sur la gauche, il peut venir tous les jours au cabinet, il aura toujours les cervicales qui seront pareilles, quoi. Donc, c'est vraiment ces conseils-là aussi qu'il faut arriver à... On bosse pas seul, quoi.
Ouais. Justement, j'en profite pour rebondir sur la position assise, qui est particulièrement délétère pour la santé. Il y a même des scientifiques qui disent que aujourd'hui la position assise tue plus que le tabac, et je crois que 80 ou 90% des Français ont mal au dos. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des choses à faire pour solutionner ça, malgré le fait qu'on soit obligé de travailler devant un ordinateur?
Travailler debout. Il y a de plus en plus de sociétés qui se mettent à inventer des bureaux où tu peux régler en hauteur, qui peuvent à différents moments de la journée ou bosser assis ou bosser debout, limiter au maximum la chaise et privilégier plutôt le tabouret ou le ballon, parce que ça va permettre au dos d'être renforcé en permanence, alors que sur la chaise on a tendance à s'avachir, même sur une chaise à 500 €, avec tous les renforts, l'être humain, il est pas encore fait pour être assis. Dans notre évolution, pour l'instant, on est encore fait pour être bipède, donc pour être debout, quoi, pour être en charge, pour que la colonne vertébrale soit musclée et gainée.
Moi, j'ai acheté une chaise assise à genoux. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Il y a pas de dossier, et donc on est assis à genoux, et donc potentiellement, t'as tout de suite une posture qui est beaucoup plus droite. Et en plus, au bout d'un moment, c'est un peu gênant pour les jambes, donc t'as aussi tendance à plus te lever. D'ailleurs, à ce propos-là, moi, je mets une minuterie Pomodoro sur 25 minutes à peu près pour penser à me lever toutes les 25 minutes, marcher un petit peu, et puis après me rasseoir sur cette chaise à genoux. Est-ce que tu penses que c'est une bonne stratégie?
Je pense que changer de position, de toute façon, dans une journée de travail, moi j'ai la chance d'avoir un métier où je passe 5 minutes par patient sur mon ordi et 35 minutes après debout à tourner autour de ma table, à m'asseoir, à me lever. Voilà, même si j'essaye de plus en plus de laisser le tabouret de côté pour vraiment être debout et que toute la force que je mets dans mon boulot, elle me vienne des jambes et du coup de mes appuis, et c'est beaucoup plus facile à gérer. Donc ouais, il faut changer de position, quoi. Il faut marcher. Si malheureusement tu fais un boulot sédentaire où tu restes 10 heures par jour assis, il faut essayer d'aller au boulot à pied ou d'aller au boulot en vélo.
D'acheter un chien.
D'acheter un chien, ouais, de marcher 40 minutes par jour, hein, c'est tous les quarts d'heure maintenant, on a la chance d'avoir un outil comme Internet qui fait qu'il y a des études qui sortent tous les jours sur l'activité physique. Moi, ce que je conseille aussi à mes patients, c'est je préfère les gens qui font 10 minutes ou 15 minutes d'activité physique par jour plutôt que ceux qui vont se griller le samedi ou le dimanche à faire 1h30 parce que, ouais, non, mais une séance, c'est 1h30. Non, maintenant, il y a des applis où tu peux faire ce qu'on appelle du HIIT, du Tabata, des trucs hyper poussé sur des courtes périodes, sur 10-15 minutes, avec un peu de récup dedans. Voilà, et tout le monde, c'est souvent de la mauvaise volonté de dire qu'on n'a pas le temps de faire du sport tous les jours. Voilà, 10-15 minutes, il vaut mieux se lever 10-15 minutes plus tôt et dormir mieux le soir parce que on a sécrété toutes les hormones qu'il faut, notre corps il a eu sa dose, on a bougé, plutôt que de dire « ouais, non, mais je préfère dormir 10 minutes de plus », alors que ça sera pas un bon sommeil, quoi, finalement.
Et du coup, le sport permet de renforcer les muscles, etc., les os. Et est-ce qu'il risque pas d'abîmer, par contre, les articulations, surtout s'il est pratiqué à un peu trop haute dose? Partir de quel moment tu penses que le sport devient délétère?
Franchement, je reviens sur la mécanique. Il y a des voitures qui font 1 million de kilomètres, et il y a des voitures qui en font 100 000, il y a des voitures qui en font 10 000. C'est pareil chez les êtres humains, quoi. Il y a des êtres humains qui sont faits pour avoir une charge énorme, qui n'auront pas de soucis. Il y en a d'autres qui sont faits pour s'entraîner peu et avoir de gros soucis. Tu vois de tout, quoi. Moi, maintenant, avec 10 ans de recul, l'âge, ça reste un chiffre. Il y a des patients de 70 ans qui sont plus en forme que des patients de 30. Il y a des patients de 15 ans qui sont moins en forme que des patients de 30. Donc voilà, il y a vraiment... Il y a tout. Il y a tout et tout le monde est différent. Et on a tous des squelettes différents, des niveaux d'arthrose différents à différents âges, des gens qui ont beaucoup d'arthrose qui vont pas avoir de douleur, des gens qui en ont très peu qui vont être tous les jours chez le kiné, chez l'ostéo, chez le médecin.
Et du coup, toi qui vois beaucoup de patients, justement, est-ce que tu as réussi à déterminer des schémas récurrents, des choses, des mauvaises habitudes par exemple qui les rendaient particulièrement qui abîmait la mécanique du corps, et puis d'autres au contraire qui étaient plutôt positives et qui permettaient d'huiler un peu tout ça?
La plupart c'est dû au travail déjà. Moi dans mon cabinet, dans ma patientèle, j'ai beaucoup plus d'informaticiens ou de comptables ou de gens travaillant assis derrière un bureau que de maçons ou de livreurs, des gens qui travaillent avec leur corps toute la journée, hein. C'est assez net.
D'accord.
Donc que les maçons, c'est pas une question de moyens, de trucs, de machin, ou de temps. C'est vraiment un truc de dire, le maçon, il aura plus de problèmes une fois qu'il s'arrêtera. Mais pendant toute sa carrière, il a beau porter du poids toute la journée, son corps, il est debout tout le temps, il travaille tout le temps, il bouge tout le temps, il se serre ses muscles toute la journée. Donc son dos, il est plus protégé. Quand il se fera mal, il se fera souvent plus mal, par contre. Parce que, il a essayé de soulever trop de poids et son corps a pas voulu. On est plus dans de l'aigu plus plus, alors que l'informaticien, ça va être tous les jours une gêne qu'il aura, il va souvent se bloquer moins fort, mais la douleur elle sera présente quasi quotidiennement, quoi. Donc ouais, il y a quand même après l'âge, c'est ce qu'on dit, c'est lié à l'activité.
T'as des personnes âgées dans tes patients?
Ah ouais, ça va de 3 jours à 80, je crois, 14 ans, le plus vieux que j'ai. Donc, mais voilà, il y en a de 60 ans qui font 90 ans, et il y en a de 90 ans qui font 60 ans. Donc, c'est vraiment une... très lié à l'activité. Il y a un,
je le pense, mouvement, c'est la vie.
Ouais, mais c'est franchement, je vais le peindre dans mon cabinet parce que c'est ma devise. Mais c'est vrai, quoi. Il faut, et de plus en plus, on le voit, on l'entend, alors que pendant une période, voilà, on disait, on en parlait un peu moins. Et là, ça revient, surtout avec cette année un peu compliquée, les confinements, tout ça. Voilà, il faut bouger, quoi. Là, les gens, le télétravail, pour nous, c'est une aubaine, mais c'est catastrophique pour le dos, quoi.
Ouais, j'imagine. J'imagine. D'ailleurs, en télétravail, est-ce qu'il y a des, il y a peut-être des choses auxquelles faire attention pour avoir une meilleure position et éviter, parce que c'est encore pire qu'au bureau. On n'a pas un poste bien optimisé. On a souvent le cou un petit peu penché, etc. Une chaise qui est même pas chaise de bureau, qui est pas adaptée.
C'est de compenser avec un
plus
peu d'activité. Ouais. Sans parler de sport, d'activité physique.
Aller marcher.
Parce que ouais, les gens, souvent le mot sport, ça leur fait un peu peur. Alors que vraiment, il faut se dire, non, il faut bouger. Et rien que déjà de bouger, ça peut être de faire de la gym chez soi, ça peut être d'aller courir, d'aller marcher vite, d'aller dans l'eau, tu vois. Nous, on est à Palavas, on a la mer à 200 mètres. Et voilà, même en hiver, elle descend rarement sous les 13-14 degrés avec une bonne combi ou comme toi, sans combi, ça peut se faire, quoi. Mais juste d'aller marcher dans l'eau. Ben ouais, c'est très tonifiant. Mais juste de mettre les genoux, de l'eau jusqu'aux genoux et de marcher pendant 10 minutes. Ah, nous, on a de la chance à Palavas, peu importe où on est dans la ville, on a, sur notre autorisation de déplacement, on peut mettre activité à moins de 20 km. On y est, quoi. On a les pieds dans l'eau. On va marcher, s'aérer, et rien que ça, ça va un peu effacer les effets délétères de la position que tu vas avoir au niveau de ton canapé, parce que souvent, ben malheureusement, les gens ils ont pas non plus la chance d'avoir une maison avec un bureau, avec un ordi de bureau, donc tu travailles comme tu peux sur la table basse, sur la table du salon, sur le manche debout, où tu te retrouves avec, enfin voilà, une position qui est encore moins bien que celle que tu vas maintenir. Alors, la seule différence avec le télétravail, c'est que t'es souvent un peu moins focus. Donc, tu vas faire plus de coupures qu'au travail, t'y vas, tu arrives à 8h30, tu t'arrêtes à 12h30, là, bon, bah, chez toi, tu vas pisser, tu vas au frigo,
c'est vrai.
Y a le livreur Amazon qui sonne, tu descends, tu remontes, enfin, voilà, t'es déjà un peu plus mobile qu'au travail.
Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et tu disais dans tes patients que tu avais des personnes très âgées et aussi des personnes très jeunes. Tu disais 3 jours et comme tu le sais, je vais bientôt être papa.
Ouais.
Et tu me conseillais d'emmener ma petite te voir dans la première semaine ou dans les 2 premières semaines, donc hyper tôt. Pourquoi d'abord? Et puis comment est-ce que tu manipules un bébé? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi est-ce qu'il y a déjà des déséquilibres d'ailleurs alors qu'il a même pas encore commencé à vivre et à marcher?
Ben parce que il a passé 9 mois ou un petit peu moins dans une petite boîte. Donc ça, après, voilà, on rentre dans des détails, mais un utérus, ça fait une 30aine de centimètres. Un bébé, en moyenne, ça fait 50 centimètres. Donc il y a déjà un souci de place, hein, de faire rentrer quelque chose de 50 centimètres dans quelque chose de 30. Donc voilà, il y a une position préférentielle dans le ventre de la maman. Il y a eu ou pas des soucis de grossesse. Voilà, nous, on est juste là pour... On est vraiment dans le cadre, souvent, de la prévention, de dire, ben, cette position préférentielle qu'il y a eu dans le ventre de maman, on va essayer de la limiter au maximum, de faire en sorte que pendant les 6-8 premiers mois de sa vie, il va passer 80 ou 90% de son temps allongé sur le dos, s'il y a une position un petit peu tordue, surtout au niveau de la tête du bébé, parce que c'est souvent le truc qui fait peur mon bébé à la tête plate, ben, c'est sûr que s'il est un peu tordu, qu'il tourne la tête toujours plus d'un côté que de l'autre, cette tête, elle va s'aplatir par la force, par la pesanteur, quoi. Donc, à force d'appuyer sur quelque chose de dur. Donc voilà, on est vraiment là pour faire du rééquilibrage, pour essayer de limiter au maximum les problèmes, quoi. Après, un bébé qui pleure, un bébé qui crie, un bébé qui dort pas, c'est un bébé qui est en pleine forme. Donc ça, il faudra que tu t'y habitues un petit peu, mais il faudra pas m'appeler pour je comprends pas, elle a passé la nuit à pleurer. Non, elle te raconte juste sa journée, quoi. Donc ouais, mais il y a plein de petits mots. Là, on est vraiment sur de la sensation, hein. Nous, encore une fois, on est que sur du testing parce qu'on a que le récit des parents. Parce que bah, bébé,
mais tu peux pas lui demander de se pencher en avant pour voilà, voir comment il se penche.
Bébé, il nous dit rien, donc on est que sur du testing de mobilité, de dire ben voilà, là est-ce que ça y va, là est-ce que ça y va, ça va pas, voilà, on essaie de, mais là les techniques elles sont hyper douces, très directes. Voilà, si ça va pas, ben on le fait aller dans cette position là et puis il y a rien d'enregistré chez un bébé, c'est souvent plus facile que chez un adulte, parce que chez un adulte le problème, si t'as 25 ans, 30 ans, ben le problème il est là depuis 25 ou 30 ans, ou alors depuis 10 ou 15 ans, si t'es tombé en 4e D, voilà, quand t'as fait de la lutte à l'école. Voilà, on est vraiment là pour limiter au maximum les problèmes plus tard. Après, on peut pas tout empêcher, on peut pas traiter les pathologies, voilà, mais il y a plein de petits mots du quotidien qu'on va arriver à enlever, et surtout, encore une fois, équilibrer le bébé pour qu'il grandisse de la meilleure façon possible, quoi. Après, c'est pas parce qu'il a vu l'ostéo qu'il aura pas une différence de longueur de jambe, qu'il aura pas une scoliose, mais par contre, dans l'avancée de l'âge, 6, 7, 8, 12 ans, on va quand même maintenant faire partie des rares qui déshabillons nos patients, parce que moi je travaille patient en sous-vêtements, qu'il ait 5 ans ou qu'il ait 94 ans, pour voir son dos, et dans la vision préventif des scolioses, tout ça, on va être vraiment avoir un rôle à jouer dans le fait de dire, ben, allez chez votre médecin consulter, puisqu'il y a un truc qui me plaît pas au niveau de son dos, et du coup, on va essayer de prendre en charge plutôt le patient, et du coup, ben, que le problème, il ait moins le temps de s'installer.
Et donc, dans l'idée, après, c'est de venir te voir une fois par an,
s'il y a pas de problème, ouais.
Ouais. Que ce soit enfant ou adulte, on est sur la même posologie,
Ouais, après ça va dépendre de l'activité physique, du sport, du travail que tu fais, mais franchement, si l'enfant se plaint pas du dos ou d'autres choses d'ailleurs, hein, bon, si c'est les genoux, les chevilles à la croissance, c'est des maux, on va dire, assez normaux. S'il y a pas de plainte une fois par an, toujours pareil comme dans le mécanicien et ça et la voiture, on va faire une révision, on va préférer éviter qu'il y ait un problème plus tard, plutôt que se dire, ah ben ça y est, maintenant il y a un problème et on va devoir se voir 2-3 fois pour essayer de régler ce problème. Donc voilà, toujours dans cette vision de prévention, se dire une fois par an, ce qu'on disait tout à l'heure, les mutuelles, elles nous aident maintenant énormément à prendre en charge souvent 1, 2, 3 séances dans l'année. S'il n'y a pas de besoin, ça sert à rien de venir 3 fois chez l'ostéo, quoi. Mmh. Une fois déjà, et après, selon l'activité sportive, selon les traumas, parce que ça, on peut pas prévenir... un accident de voiture, un trottoir raté, une chute dans l'escalier, ou un trauma au sport, voilà, là on se verra un petit peu plus. Et
là, de ce que j'entends, tout est quand même très très lié à la mécanique du corps. Tout à l'heure, au début du podcast, tu m'as parlé de digestion. Comment est-ce que la mécanique du corps peut jouer sur les organes, sur la façon dont tu digères, sur des organes mous comme l'estomac?
Ben la colonne vertébrale, en fait, c'est un tableau électrique. Mmh. Donc entre chaque vertèbre, il y a un fil qui sort à droite et à gauche, et ce fil-là, il va innerver tel ou tel organe, mais aussi tel ou tel muscle. Donc c'est vraiment pour ça que tout est lié. On a plein de casquettes, hein. En plus d'être mécanicien et informaticien, on est aussi électricien. Donc notre base de boulot, quand on joue sur de la mécanique, quand on redonne de la mobilité à une articulation, notre première intention, elle est au niveau d'envoyer une information neurologique. Donc de dire au cerveau, maintenant la nouvelle position de la vertèbre, c'est cette position-là, c'est plus celle-là. Et donc d'envoyer un message au niveau du corps et au niveau des nerfs, de dire, ben, hop, si on arrive à le libérer, donc à libérer l'inflammation qu'il va y avoir autour, ben, du coup, ça va libérer un petit peu son passage, et on va redonner de bonnes informations, mais que ce soit à des ischio-jambiers ou à un côlon. Voilà, c'est vraiment, on travaille à chaque fois sur des étages, et chaque étage articulaire envoie sur ben, un fil, et donc un disjoncteur, du coup une prise différente.
C'est ça qu'on appelle l'ostéopathie viscérale?
L'ostéopathie viscérale, c'est plus... Enfin, je suis un peu extrémiste, moi, dans mes façons de penser. L'ostéopathe, il est généraliste.
Ok.
Les gens qui se disent... moi, sur ma plaque, il y a écrit ostéopathe Déo, mon numéro de téléphone, sur rendez-vous exclusivement, et point barre, quoi. Les gens qui se disent ostéopathe pour sportifs, pour bébés, pour c'est qu'ils ont, enfin voilà, ils ont pas compris.
C'était un ensemble.
Voilà, tu peux faire des formations. Moi, j'ai un organisme de formation, donc je reçois que. Mais ce qu'on essaye de leur transmettre, c'est un outil en plus. C'est pas de dire tu vas plus faire que ça. C'est trop limitant. Moi, mon régal, c'est d'avoir un bébé, d'avoir un petit vieux, d'avoir un sportif. Avoir que des sportifs, à la fin, c'est lassant, alors qu'on a la chance d'avoir... on n'est pas une spécialité, on est vraiment un métier de globalité, généraliste, et dans nos techniques, et dans nos traitements, et dans nos patients, quoi. Et le viscéral, ça fait partie, au même titre que le crânien, au même titre que le musculo-squelettique, au même titre que le traitement du sportif ou de la femme enceinte ou du nourrisson, c'est un outil qu'on a dans nos cabinets. Mais c'est voilà, quelqu'un qui te dit t'as un torticolis, je vais te traiter juste en faisant du viscéral, c'est possible, hein. Mais voilà, moi la logique elle me vient pas, c'est pas ma façon à moi de travailler, quoi.
Et le crânien, c'est quoi?
C'est travailler sur la au même titre qu'on va travailler sur la mobilité de tes viscères. C'est de travailler sur
la mobilité de mes neurones.
La mobilité de ton crâne, parce que tout le monde n'a pas autant de neurones que toi, hein. Donc non, c'est ouais, il y a le crâne, c'est 22 os.
D'accord.
Donc tous ces os, ils s'articulent, hein. D'ailleurs, bah tu verras chez ta petite apparaître une fonte, ce qu'on appelle les fontanelles. Donc c'est un endroit où en fait l'ossification elle est pas terminée, donc il y a un trou en fait dans le crâne qui est juste fermé par de la membrane, mais l'os est pas encore fait. Et donc voilà, toutes ces sutures là, elles se mobilisent entre elles. Donc sur les maux de tête, sur le serrement de dents, sur
donc les os du crâne sont en mouvement ou peuvent être en mouvement.
Ouais.
D'accord, moi je les imaginais hyper fixés, que c'était comme une cage, comme une carrosserie.
Non, c'est très solide, hein, parce que notre corps il est quand même bien fait, hein, il protège tout ce qui est vital. Donc le bassin, il est là pour protéger le petit bassin, les organes de la reproduction. La cage thoracique, elle est là pour protéger le cœur, les poumons, le foie, l'estomac. Et le crâne, il est là pour protéger le cerveau. Donc c'est une boîte assez solide, mais c'est une boîte mobile, quoi.
Ok, très intéressant. Et est-ce qu'il y a, à ton avis, des autodiagnostics qu'on pourrait faire, nous, dans notre quotidien, pour justement détecter des déséquilibres, des problèmes, avant qu'ils deviennent justement trop ancrés dans nos tissus, dans notre corps, et pouvoir les traiter, entre guillemets, à temps?
Tout le monde n'arrive pas à se connaître ou à s'écouter assez pour arriver à faire ça. Souvent, les gens ils vont au bout du truc avant de se dire ah ben tiens il y a un problème, quoi. Mais ouais, il y a des petits signes, un mauvais sommeil, de la fatigue un petit peu plus que d'habitude, des petites tensions qu'on n'a pas d'habitude. Après de l'autotest de mobilité, hein, de tourner la tête à droite, à gauche, et de se dire ouais, à droite je vois l'arrière de mon épaule, à gauche je vois pas du tout mon épaule. Déjà, c'est de dire, c'est bizarre, il y a un petit problème. Ce que tu disais tout à l'heure là avec ton pomodoro, bah, les gens qui sont obligés toutes les 5 minutes de changer de position sur leur chaise ou de pas tenir sur une jambe, de bouger s'ils restent debout un moment. Voilà, c'est des petits signes qui disent, bah tiens, le corps il a un peu de mal à adapter telle ou telle position, c'est qu'il doit y avoir quelque chose qui le gêne. Mais ouais, il y a plein de, enfin, apprendre à s'écouter déjà, c'est pas mal. Mais c'est un peu comme l'hydratation, hein. C'est souvent une fois que t'es desséché complet et que t'as super soif que tu te dis ouais, je vais me descendre une bouteille d'un demi-litre d'eau, alors que c'est déjà trop tard. Le fait de sentir que t'as soif,
t'es déjà déshydraté
en fait, hein. Donc c'est de dire progressivement, toutes les heures on va se boire ce que je t'ai servi là, un petit shooter d'eau, et ton cerveau il va arriver à traiter plus facilement ces informations là que sur un demi-litre d'un coup, il va pas savoir ce qui lui arrive puisqu'il est en manque, et du coup tu vas avoir la vessie qui se remplit et tu vas aller pisser beaucoup plus souvent.
Et le fait de se baisser en avant et de pas réussir à toucher ses pieds, c'est un problème pour toi ou pas?
Ouais, c'est un problème parce que j'arrive à le faire, donc et que je suis pas hyper souple de base, mais c'est toujours pareil, ça dépend. Si t'as pas de douleur, que ton corps il fonctionne, que tu t'es jamais bloqué, bah, physiologiquement t'es fait comme ça. Ça, c'est l'avenir qui nous le dira si c'est un problème ou pas. Hein. Si demain tu te bloques et que t'as mal au dos tous les jours, ouais, bah c'est que peut-être il y avait un petit peu trop de raideur musculaire. Après, non, enfin on n'est pas tout se fait pareil. Il y a des gens qui, sans échauffement, ils vont poser les mains à plat au sol et qui viennent quand même me consulter pour des douleurs ou des trucs. Il y en a d'autres qui descendent à peine à leurs genoux et qui ont jamais mal au dos. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que plus on est... Moins il y a de tensions qui viennent s'appliquer sur le bassin et sur la colonne, mieux c'est, mais après, c'est propre à chacun.
Et tu penses que les étirements sont importants? Parce qu'il y a pas mal d'études contradictoires sur le sujet. Il y a certaines études qui disent que ça sert simplement à être bon dans l'étirement que tu es en train de faire, mais que ça a aucun transfert dans la vie, etc. Il y en a d'autres qui disent qu'au contraire, c'est bien d'avoir un petit peu de... justement de fermeté, de pas être trop hyper lax, etc. Il y en a d'autres qui disent au contraire que c'est important d'être souple. C'est quoi ton avis là-dessus? Est-ce que ça vaut le coup à ton avis de passer du temps tous les jours à s'étirer? Est-ce que il faut plutôt être sur des protocoles longs, donc des étirements par exemple qu'on tient sur 1 minute, 2 minutes, ou plutôt sur des protocoles courts, plutôt des étirements dynamiques? Est-ce que t'as des avis là-dessus?
Moi, pour moi, l'étirement c'est hyper important. Il y a 4-5 ans, là, il y a énormément de débats qui sont sortis sur ne vous étirez plus.
Ça
sert à rien. Physiologiquement, le corps, il va se relâcher de toute façon après une séance, que ce soit de course, que ce soit de muscu, un entraînement de basket, il va y avoir un relâchement physiologique. C'est dans les 2 heures après la séance. Moi, je conseille à tous mes patients de s'étirer. Pas obligatoirement après la séance, parce que justement, on va laisser le temps un peu au corps de faire déjà sa propre sauce, et après, nous, on arrivera en complément. Mais oui, une activité physique, c'est un raccourcissement du muscle. Comme je te disais tout à l'heure, la laxité, c'est une chose, on est vraiment sur le ligament, et la souplesse, on est vraiment plus sur le muscle, et c'est l'association... Enfin, il y a des gens, ils peuvent être très souples sans avoir aucune laxité ligamentaire, quoi, parce que le ligament, c'est pas quelque chose normalement de très extensible, à part chez les gens qui arrivent à plier le genou un peu dans l'autre sens, là, avoir une extension un petit peu plus importante, ou les coudes qui ont tendance à se plier aussi un petit peu, ou à aller toucher le sol très facilement, mais ça veut pas dire qu'ils seront très souples musculairement. Donc voilà, il faut vraiment arriver à trouver... toujours pareil, c'est une question d'équilibre, et pour moi, il faut toujours arriver à remettre le curseur sur ce point neutre au niveau musculaire. Il y a des gens, ça va arriver très vite, il y a des gens, ils vont être un peu plus longs. Moi, j'ai tendance à conseiller des étirements plutôt, comme tu disais, sur 1 minute, 1 minute 30, donc plutôt dans la longueur, puisque ce que j'avais appris, hein, après, il y a peut-être des nouveautés, mais c'était quand même qu'il fallait 90 secondes d'informations pour qu'au niveau neurologique, parce que c'est le cerveau en fait, hein, qui décide aussi grande partie de tout, donc de dire c'est bon, le muscle est relâché ou le muscle est pas encore bien suffisamment relâché. Mais pour moi, activité physique rime avec étirement, avec échauffement, avec hydratation, avec alimentation, enfin voilà, la vie quoi, hein, c'est un petit cercle. Si tu pars à froid faire un sprint, bah, t'as plus de chances de te claquer. Après, il y a des sports qui vont demander plus d'étirement. Il y a des sports qui vont demander un peu moins d'étirement. C'est sûr qu'un lutteur, quand je dis un lutteur, c'est plus les gens qui ont besoin d'être très fermés pour pas se faire surprendre. Bah, ils vont limiter un petit peu plus les étirements. Après, des sports de jump, d'athlée ou quoi, c'est des gens qui vont faire énormément d'étirements, et d'ailleurs tu les vois à la télé, ils sont souvent allongés au bord de la piste en train d'essayer d'étirer les ischios, d'étirer les quadris avant de sauter, parce que ben il y a besoin de cet effet ressort, et ben pour avoir cet effet ressort, il faut pas que le muscle il soit déjà trop raccourci, il faut qu'il puisse partir d'une position longue pour arriver à se concentrer sur l'effort présent au bon moment. Donc ouais, moi je suis un pro étirement.
Non, mais je suis d'accord avec toi, indépendamment des études scientifiques, moi d'un point de vue simplement empirique, je m'étire 5-10 minutes tous les soirs et je remarque que ça me fait du bien. Donc ça c'est simplement du domaine de la sensation, mais je remarque. Après, là où j'ai plus de doutes, c'est sur le véritable gain en souplesse. J'ai l'impression de gagner un petit peu, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même une partie génétique qui est assez programmée. Tu vois, j'ai une bonne mobilité par exemple des épaules, j'ai les ischios hyper raides, malgré le fait que je les étire, je trouve que je gagne peut-être 1 cm ou 2 cm, mais je pense pas que je viendrai un jour hyper souple de ces parties-là. Donc je pense qu'il y a quand même une partie déterminée.
Oui, il y a une facilité
déterminée. Mais ça empêche pas de t'étirer et d'y trouver des avantages. Et Est-ce qu'il y a des routines ou des hacks, des petites choses à ton avis qui pourraient nous aider justement à huiler cette mécanique du corps et à nous permettre de le conserver en meilleure santé? On a parlé du sport, des étirements. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te semblent importantes?
C'est un vaste.
On attend.
Chacun il trouvera son compte aussi. Hein. Il y a des moi typiquement depuis que j'exerce et même pendant mes études, hein, on te bassine sur la natation. Mais même si on est au bord de l'eau et que on vit avec ça, il y a plein de gens qui aiment pas aller nager, rapport avec la nudité, tout ça. Et ces gens-là, tu leur donnes que cette solution-là. Et ils se retrouvent dans une impasse parce que s'ils y vont, ils y vont en reculons, ils sont crispés, ils sont pas détendus. Déjà de faire une activité ou un sport qui te plaît, surtout dans les temps actuels, c'est hyper important quoi. Si t'aimes pas aller courir, ne va pas courir. Si t'aimes pas aller nager, ne va pas nager. Il faut trouver un autre truc qui te plaît. Donc déjà moi c'est mon premier conseil aux gens. C'est de faire quelque chose qui vous branche quoi.
Sinon tu ne tiendras jamais sur la durée de toute façon.
Ouais, puis tu vas pas, enfin, on se fait assez chier comme ça. Là, on est interdit de tout, on peut plus aller manger au resto, on peut plus aller boire une bière. Si en plus le peu de plaisir qui nous reste, c'est d'aller faire du sport et ce sport-là, il te plaît pas, non, enfin voilà, ton corps, il trouvera pas un bienfait à aller faire ça. Mais comme tout quoi, enfin il faut vraiment se dire non, j'y vais pour me faire plaisir. Et il y a pas de mauvais sport, il faut que les gens ils s'enlèvent ça de la tête. Il y a pas de, il y a juste de la mauvaise pratique quoi. Et on revient sur l'échauffement, sur la distance. Moi toutes les semaines je répète à bon nombre de patients, si tu fais rien pendant 6 mois et qu'avant tu faisais du sport et que dans ta tête tu te souviens que la dernière fois que j'ai fait 60 tractions et je suis arrivé à courir pendant une heure à 12 km/h, donc à faire mes 12 km, ce qui est déjà
une bonne perf,
et que dans ta tête t'as gravé ça, et que tu pars après 6 mois sans avoir rien fait, ou t'as moins bien mangé, ou t'as pris un peu de poids, tu pars devant chez toi, tu vas faire le tour de Palavas, tu fais tes 12 km, mais derrière c'est sûr et certain que tu vas avoir mal aux genoux, tu vas avoir mal aux chevilles, tu vas avoir mal au dos, tu vas peut-être te faire une petite lésion musculaire, donc derrière tu vas arrêter. Et puis une fois que tu auras plus de douleur, tu vas reprendre de la même façon. Non, il faut de la progressivité. Il faut se dire, ben voilà, il y a pas d'âge pour commencer une activité physique, un sport, mais au même titre que la peinture, la musique ou tout quoi. Il faut juste faire quelque chose qui te plaît progressivement. Tu vas prendre des cours de guitare. Tu vas pas commencer par jouer AC/DC leur meilleure chanson sans aucun accro. Le sport, c'est l'activité physique et le sport, c'est la même chose, quoi. C'est vraiment de l'entraînement, de dire bah, à mon corps, je vais l'informer que on va commencer ce truc-là, donc des réveils musculaires. Et même, il n'y a pas de petite activité, comme je disais moi. Tu me parles de hack, de petits trucs. C'est vraiment essayer de faire au plus de sport quotidien et au moins 2 grosses séances sur une fois. Mmh. Voilà, il vaut mieux perdre un peu de temps tous les jours que perdre beaucoup de temps le week-end où on va souvent se faire mal parce qu'on va faire un peu trop que ce que notre corps il peut supporter, alors que sur 10-15 minutes quotidiennes on va s'échapper un petit peu. C'est ce que j'essaye de faire, ouais. Donc que ce soit dans le sport mais aussi dans un peu de relaxation, un peu de voilà, la méditation. J'avais essayé un temps et puis j'ai un peu de mal à rester concentré sur des grosses périodes. Donc je suis passé sur 5 minutes sur les conseils de quelqu'un, voilà. De
ça, par rapport à la méditation, moi j'avais essayé il y a 3 ans et pareil, je me mettais trop la pression, je le voyais trop comme un exercice, quelque chose que je vais réussir, où je vais me concentrer, etc. Et là j'ai repris il y a peut-être 6 mois ou un an, il y a bien un an, et j'en fais 10 minutes tous les jours. En mettant beaucoup moins la pression, en me laissant beaucoup plus aller, en le voyant beaucoup moins comme un exercice, mais plutôt comme un moment pour moi de relaxation, justement, de détente. Et ça me fait énormément de bien, surtout parce que ça me permet d'avoir un sas de décompression entre ma journée de travail et ma soirée avec ma copine. Parce que je suis entrepreneur et donc j'ai tendance à toujours penser à ma boîte, etc. Et donc avant, quand je rentrais du boulot, bah, je continuais à penser à mes idées, à des problèmes que je vais résoudre, etc. Et j'étais pas vraiment dans le moment présent. J'avais du mal à écouter ce que me racontait ma compagne, et être vraiment dans le moment présent, dans le repas que j'étais en train de manger, dans la soirée de lecture, de jeu ou de télé que je faisais. Et depuis que je fais de la méditation, ça me fait vraiment ce sas de décompression et ça me permet de passer de ma journée de travail à ma soirée et ça me fait effectivement beaucoup de bien.
Et on revient, tu vois, sur ce qu'on disait. Toi, t'as trouvé le truc qui te convient à toi. Et c'est peut-être pas le truc qui conviendra
à
ta compagne ou à ton frère. Voilà, c'est vraiment... chacun aura son truc. Il y en a, ils ont besoin d'une heure de méditation pour se sentir bien. Il y en a, mais c'est comme le sommeil. Il y en a, ils ont besoin de 12 heures. Il y en a, ils ont besoin de 4 heures pour avoir la même réparation. Hein. Donc c'est.
Bah, et d'ailleurs là, tu dis, t'as trouvé le truc qui te convient. Et en fait, c'est pas qu'un truc, c'est plein de trucs qui mis bout à bout m'ont permis de trouver un équilibre. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de choses qui étaient nécessaires à cet équilibre. Avant, tu vois, je dormais pas bien, je mettais beaucoup de temps à m'endormir, je faisais beaucoup d'insomnie, etc. Depuis que je fais du sport tous les matins, c'est plus le cas. Je suis crevé le soir et je m'endors beaucoup mieux. Enfin, tu vois, c'est plein de petites choses mis bout à bout. Pareil par rapport à l'alimentation, à l'énergie que ça peut te donner, à l'alcool, peut-être que je buvais trop aussi avant. Enfin bon, bref, c'est des détails. Mais mis bout à bout, effectivement, tu vois, tout s'accorde parfaitement dans un superbe puzzle et au final t'es tous les jours énergique, en bonne forme, en bonne santé, tu dors bien la nuit, enfin en tout cas la plupart du temps, et c'est quelque chose qui est quand même assez
profite.
Nouveau pour moi. Oui, profite parce qu'il y a la petite qui arrive, et c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi parce que pendant une grande partie de ma jeunesse j'étais beaucoup moins carré, j'avais beaucoup moins de trucs, beaucoup moins de petits hacks, de petites routines qui pourtant m'aurait fait du bien. Et du coup, comme je te disais, j'avais un sommeil qui était un peu déplorable, une alimentation qui était pas terrible non plus, une pratique du sport qui était assez sporadique, et au final tout ça se ressentait dans ma forme physique, mais même mentale, dans mon équilibre mental, dans ma capacité à absorber des difficultés. Et aujourd'hui, quoi qu'il se passe dans ma boîte, j'ai l'impression d'être toujours doté d'une énergie d'une intelligence parfaite, en tout cas d'être à mon plein potentiel pour réussir à le surmonter, à le résoudre et à trouver des solutions. Et donc,
on revient vraiment, tu vois, sur moi, la chance que j'ai de pratiquer ce métier, où j'ai pas l'impression finalement le matin d'aller bosser parce que j'aime vraiment ce que je fais. On est encore sur la globalité, quoi. Moi, quelqu'un qui mange mal, qui s'hydrate pas, qui fait aucune activité, qui va pas bien dans sa vie de couple, qui vient de perdre quelqu'un, je peux pas régler ces soucis-là, moi. Je pourrais régler que la mécanique. Et malheureusement, comme tu parlais de puzzle, mais la mécanique, c'est une pièce du puzzle. Si il manque toutes les autres pièces, la personne, elle pourra pas aller mieux. Donc voilà, maintenant, on essaie d'y faire un peu plus attention à ce qu'on mange. On a parlé ensemble de ce documentaire sur voilà l'alimentation, sur voilà sur les protéines animales, sur plein de choses où tu te poses des questions, tu fais, et encore une fois on parle beaucoup de données scientifiques. Donc moi je fais toujours très attention, et encore plus je pense cette année avec tout ce qui s'est passé avec la Covid.
On sait jamais trop si c'est le ou là.
On sait jamais trop ce que les chiffres ils veulent bien nous dire aussi, quoi. Hein. Moi, je suis une génération où les médicaments, on les donnait à soi-disant, ils étaient tous très carrés. Il y avait beaucoup de recherches qui étaient faites, et puis au fur et à mesure, tu vois que ils les retirent de la vente parce qu'au final, on se rend compte que ça tue les gens. Voilà. Alors que nous, en ostéopathie, il y a très peu de recherches. Et c'est sûrement un des trucs qui nous pèse le plus, parce que finalement notre pub entre guillemets, elle est faite par nos patients et pas par de la recherche. Et c'est ce qui barre un petit peu, je pense, l'expansion pleine de l'ostéopathie par rapport aux médecins, par rapport aux kinés, qui eux sont très basés sur oui non mais si la recherche elle dit ça, oui mais voilà, la recherche elle a dit que le Diantalvic c'était un super médicament, ou que le Miolastan c'était un super médicament, et pourtant 10 ans après on se rend compte que ça a tué ou que ça a créé telle ou telle pathologie, quoi. Donc voilà,
qu'est-ce qui rend cette difficulté d'avoir des recherches et des études scientifiques? Est-ce que c'est le fait qu'on soit dans de la prévention, un peu comme par exemple le brocoli ou les myrtilles? On peut montrer maintenant que ça peut prévenir le cancer, etc. Mais quelque part, il a fallu énormément de temps pour faire ce lien. Avant, on était beaucoup plus en fait sur le fait de faire des recherches sur ce qui pouvait guérir des maladies que sur le fait de les prévenir.
Ouais.
Et l'ostéopathie est justement plutôt basée sur la prévention. Donc, est-ce que c'est ça qui explique le fait qu'il y ait moins d'études, moins de preuves de son efficacité?
Un, c'est la technologie. Parce que pour Nous, comme je te dis, on bosse sur la mobilité. Et pour voir une différence de mobilité avant et après, ça va être la technologie qui va nous y amener. Donc là, avec les, tout ce qui est capteurs, caméra hyper haute définition, on va arriver quand même à IRM. Donc maintenant, on arrive à filmer des IRM. On va bientôt, quand les machines auront assez évolué, qu'elles seront plus grandes, arriver à filmer des manipulations dans un IRM, donc en direct, de voir quel effet il y a sur ce qu'on cherche sur l'articulation, donc que ce soit avec le scanner, l'IRM. Mais bon, ça coûte des millions d'euros. Comme je te dis, nous, on est encore dans un coin du placard. Voilà, il y a d'autres... encore une fois, encore plus cette année, les fonds, ils seront alloués à d'autres recherches que à la mobilité en ostéopathie. Donc, pour l'instant, nos seules recherches, finalement, c'est de prendre 100, 200, 2000 patients et de dire, bon, ben voilà, vous avez tous... un torticolis ou un lumbago. Bon ben voilà, vous allez faire une séance d'ostéopathie. À vous, on va vous faire une technique. À vous, on va pas vous faire de technique et on va voir comment ça évolue. Ah bah tiens, ça évolue plus vite avec la séance que sans la séance. Enfin, avec la technique que sans la technique. Mais voilà, pour l'instant, ça s'arrête à ça quoi. C'est un peu nos mémoires de fin d'études en fait, hein, de dire. Mais voilà, on va être obligé de se rapprocher de toute façon et c'est ce que nous on essaie de faire dans notre organisme de formation. Vraiment de se rapprocher du côté médical et de laisser un peu ce côté pendule. Voilà, je travaille avec une pierre de lave et je t'enlève le mal qui te pourrit la vie quoi.
Ouais, mais c'est vraiment
ouais, on essaie. Moi voilà, j'essaie quand j'écris un courrier à un médecin ou quoi de rester le plus clair possible, de pas rentrer dans des détails de séance parce que ils savent pas et je pense pour la plupart ils s'en foutent. De ce qu'on fait dans notre cabinet, l'essentiel pour eux, il est que le patient, il aille mieux à la fin. Donc juste de leur dire, voilà, on l'a vu, il se plaignait de ça, ça, on a travaillé ça, ça, et point barre. Et ça leur suffit, mais voilà, en faisant ça, ben, ils se mettent en tête, ah ben tiens, il a vu l'ostéo pour ça. Ah ben tiens, et puis peut-être qu'un jour, ça sera le chir. De dire, ben tiens, avant une opération du genou, avant de refaire des croisés, est-ce que ça vaudrait pas le coup de voir si l'articulation, elle est bien à sa place? Ou si voilà, si nous on n'a pas quelque chose à amener pour le patient, pour la rééducation future, de dire ben ça serait peut-être plus sympa de travailler sur une articulation neutre que sur une articulation qui est déjà donc lésée par la rupture, mais en plus dans une mauvaise position.
En fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même une évolution générationnelle qui se fait. Je pense que les médecins généralistes font énormément d'heures. Je crois que j'avais entendu des chiffres comme 70-80 heures par semaine. Donc souvent, ils ont probablement pas le temps de se pencher sur des études, de s'ouvrir en fait, de continuer à se former. Donc leur formation reste celle de la sortie de médecine. Et donc un médecin généraliste qui a 60 ans, ben forcément ses connaissances elles datent et c'est comme ça que tu tombes sur des médecins qui sont peu sensibilisés par exemple à la microbiote, etc., à l'ostéopathie. Et par contre, je remarque que quand tu vas voir un médecin généraliste plus jeune, ou c'est peut-être moi qui ai constaté ça, voilà, mon échantillon est petit, donc peut-être que c'est pas un fait général, mais en tout cas moi j'ai constaté ça, ont plutôt tendance à me conseiller d'aller voir des ostéos, tu vois, par exemple le médecin du sport pour ma fille, mon médecin généraliste, c'est pareil, on en a déjà parlé, enfin.
Ouais,
j'ai l'impression que ça commence à rentrer dans la culture, dans les mœurs.
Ça rentre dans les mœurs. C'est, bah voilà, il faut se dire qu'il y a 18 ans, donc en 2002, c'est là où on a eu nos premiers décrets légiférants sur le métier d'ostéopathe en France. Avant ça, tous ceux qui en faisaient, c'était de l'usage illégal de la médecine. Donc tous les kinés qui se sont lancés là-dedans, qui ont dit, parce que tous nos vieux ostéos,
en fait. Les pères fondateurs sont des kinés.
Voilà, c'est tous des kinés qui, à un moment donné, ont trouvé quelque chose en plus dans l'ostéopathie, et il y en a qui ont claqué la porte à la kiné, en disant, ben, je rends mon diplôme, je n'exerce plus que en ostéopathie. Et tout cela, ils sont allés au tribunal, donc voilà, ils se sont battus, aussi pour qu'on en soit là où on est. Après, voilà, il y a plein de bataille de clocher, de guerre de clocher qui ont fait que tout n'est pas parfait, mais voilà, ça sera jamais jamais parfait. De toute façon, il y aura toujours un petit grain de sable, un qui travaille de telle ou telle façon peu déontologique.
Après cette petite digression sur la profession, je reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, tu disais que chez quelqu'un qui avait des problèmes de couple, une mauvaise alimentation, etc., que ça faisait un tout, et que du coup, le mécanique était forcément impacté. Est-ce que toi, en voyant le corps de quelqu'un, t'es capable de savoir s'il a une vie saine ou pas?
Non.
Ou savoir en tout cas s'il a des tensions psychologiques, est-ce que ça se voit dans son corps? Est-ce que le corps garde des traces de toutes les blessures que t'as, même psychologiques?
Le corps, il a une mémoire.
Mais elles sont visibles, je veux dire.
Visible à l'œil, non. Visible au toucher, déjà un peu plus, parce qu'il y a des zones où t'as un patient qui va se protéger au moment où tu touches cette zone, que ce soit le ventre, que ce soit le bassin, que ce soit les cervicales. Après, c'est plus dans le, dans les questions qu'on va poser, quoi, hein, où dès qu'on sent qu'il y a un truc pas très clair, on va essayer d'aller un peu creuser, voilà, tout en restant à notre place, mais en expliquant, en fait, hein, moi, les trois quarts de ma séance, pendant une séance, je fais 3-4 techniques, 5 techniques ostéo. Après, tout le reste, c'est du questionnement et c'est d'essayer de trouver pourquoi c'est là et pourquoi j'ai pas envie de le revoir derrière, quoi. Mmh. Donc, si moi, j'explique pas, lui, il va sortir de là, il va se dire, ouais, bon, il m'a fait ça, il m'a fait craquer là, là, il m'a dit ça, ouais, il m'a conseillé de boire de l'eau, puis voilà, après, la patiente est dans la nature. Voilà, j'ai pas fait mon boulot. Mon boulot, il est de dire, vous savez que si ça va pas, que si vous êtes déprimé, que, comme toi, tu disais par rapport à ton métier d'entrepreneur, si t'arrives pas à faire la part des choses, à gérer ce stress-là, tout ça, tes cervicales, t'auras toujours mal, ton sommeil, il sera toujours mauvais, et on aura toujours des petits grains de sable dans les rouages, quoi. Donc, moi, je suis que spectateur déjà, donc j'essaie d'intervenir avec 1, 2 ou 3 outils, mais après, c'est le patient qui fait ce qu'il a envie de faire, quoi. Moi, les gens, je leur dis. Après la séance, je suis pas un interdiseur. Mes patients, s'ils ont envie d'aller faire du sport derrière, pourvu que déjà avant de venir me voir, ils fassent du sport, il y a aucun souci, quoi. Après l'ostéo, pour moi,
Il n'y a pas besoin d'attendre 3 jours pour refaire du sport.
Non, c'est sûr qu'on va éviter de faire la plus grosse séance de l'année oui. Juste derrière ma séance. Mais si t'as l'habitude, toi, ton quotidien, il est de faire t'entretenir, de bouger. Tout va dépendre dans l'état dans lequel tu vas arriver. C'est sûr que si t'arrives, t'es plié en deux. Oui, on va peut-être attendre un petit peu avant d'aller recourir. Mais encore une fois, le mouvement, c'est la vie. Donc, il va falloir bouger, il va falloir aller marcher, il va falloir monter tes escaliers chez toi. Donc oui, il faudra le faire. C'est sûr que si t'as un lumbago coupé en deux, tu essayes de me refaire des squats juste derrière, ça va pas être bon, quoi. Donc, ouais, c'est toujours de l'adaptation. Ça dépend de chaque patient. Voilà, les gens qui font jamais de sport, c'est sûr que s'ils se mettent à faire du sport juste après une séance d'ostéo, ils vont dire oh ouais, l'ostéo il m'a fait non, c'est mal conseillé. Non, tu peux aller marcher, tu peux aller te balader, mais tu vas pas faire une séance alors que tu fais jamais de sport juste après une séance d'ostéo.
OK. Et par rapport à l'alimentation, on a rapidement survolé le sujet, notamment avec Game Changer, tu disais que ça t'avait fait te poser des questions. Comment est-ce que tu manges?
J'ai la chance de bien manger parce que j'ai une super cuisinière à la maison. Après, je suis de base, un viandard.
Ouais.
Donc, blanche, rose, rouge.
Toutes les couleurs.
Toutes les couleurs de viande. Caro, donc ma femme, a aussi vu le reportage et c'est vrai que ça fait poser énormément de questions sur, comme ils disent dans le reportage, sur ce qu'on nous a fait croire aussi pendant des années que si tu voulais être fort, si tu voulais être un vrai mec, il fallait manger ta côte de bœuf d'un kilo, sinon tu manges des haricots rouges et t'as exactement le même apport nutritionnel en enlevant en plus les problèmes liés au fait d'être carnivore. Donc
maintenant on va voir l'attaque marketing inverse et ça va être pour être fort et viril, il faut manger
du pinard. Mais
du prosélytisme vegan.
Là, on a commencé à se dire on va pas arrêter. Déjà, on veut pas devenir vegan, on veut pas devenir végétarien, on veut aller vers ça. On veut essayer de se dire, est-ce que tous les jours on est obligé de manger de la viande? Non. Est-ce que tous les repas on est obligé de manger de la viande? Non. Est-ce que 2-3 fois par semaine on a envie d'en manger? Oui. Et déjà, si on arrive à se dire, on va limiter un peu les quantités. Le problème en France, c'est que on te vend une entrecôte de 300 grammes et une portion de légumes de 50 grammes dans ton assiette quand tu vas au resto. Alors que ça devrait être une portion de 50 grammes et à côté, une grosse portion de légumes, de féculents, encore une fois, la globalité, la variété.
Tout est question d'équilibre.
C'est vraiment une question de, voilà, de...
Et puis de varier les sources de protéines. Du coup, tu peux très bien imaginer manger de la viande trois fois par semaine, du poisson trois fois par semaine, et des plats végis trois fois par semaine.
Des haricots, enfin, voilà.
Et puis, je pense qu'il y a aussi une question de qualité de la viande, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre la viande industrielle. Tu vois, par exemple, j'ai appris que la viande de veau, il était parqué dans un tout petit espace. Pour pas pouvoir bouger, pour que ses muscles ne se développent pas et que la viande reste tendre. Du coup, il voit jamais le soleil, il a jamais bougé, il a jamais utilisé ses muscles. Bon bah, c'est pareil le foie gras de canard, le canard qui a été gavé, etc. C'est un foie malade. Je pense que ces viandes hyper transformées qui vont à l'encontre de la façon de fonctionner des animaux est néfaste à la fois pour le bien-être animal et pour nous, parce que potentiellement de moins bonne qualité. Par contre, toi, je pense que tu me disais que t'allais voir justement, que t'allais acheter de la viande chez des petits producteurs, etc. Une viande qui a été qui a vécu dehors ou du gibier par exemple, qui a eu une vie en forêt, etc. À mon avis, elle a une qualité nutritionnelle vraiment différente.
Sur la qualité nutritionnelle, j'en ai aucune idée parce que je me suis jamais penché sur le truc de la différence entre la viande de supermarché, la viande de boucher.
Sur l'alimentation qu'ils ont.
Mais c'est plus sur le réseau, sur tout ce que ça en implique, quoi, en fait. Hein. Voilà.
Oui, mais une vache qui mange de l'herbe, par exemple, elle aura forcément une viande de meilleure qualité qu'une vache qui mange des céréales ou même pire à l'époque quand il y avait les farines animales. Enfin.
Nous, on essaye de manger au maximum. Sans parler de bio, mais de filière courte, de dire on est dans une super région où il y a pas mal de cultures.
Tu me donneras des adresses.
Ouais, ben d'aller acheter à mon bio juste à côté ta cagette de fruits et de légumes qui ont pas traversé la planète pour te satisfaire. Donc après, oui, il y a certains trucs que t'es obligé de faire. Mais j'ai un copain, mon meilleur ami qui est aussi mon associé, qui habite à côté de Lançon de Provence. On en discutait il y a 15 jours. À côté de chez eux, ils ont des serres. Ils cultivent de la spiruline, ils arrivent à cultiver des fruits de la passion. Donc maintenant, avec la technologie de maintenant, t'as une bonne terre, t'as de la volonté, t'as de l'eau, t'arrives à cultiver n'importe quoi. On a des serres que tu peux régler en température. Il faut pas que derrière, il y ait une empreinte carbone non plus autant que de prendre l'avion pour venir du Guatemala pour les avocats. Mais voilà, il faut arriver, je pense, plus que de dire... est-ce que c'est bon ou pas ce qu'on mange? C'est aussi d'où ça vient, quoi. Est-ce que c'est logique que ta viande, elle soit... mais même pour le bio, hein. Est-ce que c'est logique que tes bananes bio, elles soient dans une barquette en plastique? Moi, je pense que c'est pas logique, quoi. Tu vois, là, j'ai été sensibilisé parce que ça m'intéressait déjà, mais j'ai un ami qui a créé sur Palavas une association de protection des océans où ils font des petites journées de ramassage, de sensibilisation, de choses comme ça. Du coup, t'y penses encore plus et tu te dis mais c'est vraiment con, quoi, tu vois, le fait de jeter un mégot par la fenêtre. Enfin, le débat là, on s'échappe, je m'échappe complètement, mais
non, je pense vrai, que je suis totalement d'accord avec toi.
Le questionnement, il est surtout toi qui vas être papa, moi qui suis papa depuis bientôt 3 ans, c'est qu'est-ce qu'on veut laisser à nos gamins, quoi, quelle image. Moi, je suis un peu plus vieux que toi, mais j'ai 36 ans, bientôt 37. Je suis d'une génération où les gens, ils fumaient la clope, ils jetaient par la voiture, c'était bien, tu vois, tu fumais ta clope, tu la jetais, donc... Mais mes parents, quoi, tu vois, donc juste la génération au-dessus de la tienne, de voir des trucs comme ça, et tu te dis, 30 ans après, finalement, les choses, elles ont pas...
Non,
pas
tu
tant
veux,
évolué,
tu
parce que
par
le mec, il fume, et puis il regarde... Maintenant, la seule différence, elle est que le mec, il fume, il regarde autour de lui quand on le regarde pas, puis il jette sa clope, quoi. Genre, personne m'a vu. Non, il faudrait que tout le monde prenne conscience de dire... ouais, c'est pas normal de bouffer des fruits dans du plastique, quoi.
Ouais, non, c'est sûr. Mais le plastique, c'est un vrai problème. Et donc, je monte souvent à Paris pour mon boulot. Et je vois des gens assez régulièrement jeter la bouteille d'eau ou l'emballage de leur gâteau, etc. par terre, alors qu'il y a des poubelles partout. Autant, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de poubelles. Bon, bah, c'est pas excusable, mais bon... Déjà, ça pourrait être plus compréhensible. Là, il y a des poubelles partout. Et pour autant, les gens, ils balancent ça par terre. C'est vraiment un problème. Après, je pense aussi que... Il y a une différence de génération et de culture, et je pense qu'on est de plus en plus sensibilisé aux questions écologiques, et que moi je vais transmettre ces valeurs-là à mes enfants, et que eux les ayant, nous tu vois, on les a
acquises,
on les a apprivoisées, tandis que nos enfants les auront dès la naissance. Et donc je pense que du coup ça sera quelque chose qui sera beaucoup plus facilement inscrit dans leur comportement. Et même tu vois, par exemple, sur internet tu peux comparer deux produits, t'en as qui sont peut-être 3 fois moins chers, qui ont été produits en Chine, et d'autres qui sont au bon prix, avec une entreprise avec un fort impact RSE, tu vois, avec un fort positionnement RSE. Est-ce qu'aujourd'hui tu vas faire le choix de payer 3 fois plus cher ton produit, peut-être pour certains, mais pas forcément pour tous. Et donc quelque part, c'est un peu le problème de la mondialisation aussi, tu vois, c'est que tu peux toujours comparer et qu'on a un biais cognitif qui est toujours choisir le moins cher si la qualité est la même. Et je pense que cette façon de réfléchir va être de moins en moins vraie avec les générations futures qui elles auront intégré beaucoup plus jeunes ces valeurs d'écologie et l'importance que ça a.
Après, ouais, c'est possible.
Enfin, en tout cas, c'est mon espoir.
Ouais, bah, moi aussi. Hein. C'est lié au pouvoir d'achat aussi, je pense, malheureusement. Tout le monde peut pas aller, même si c'est une question... je pense que c'est comme le sport tous les jours. Tout le monde peut le faire, à condition de se dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir 25 t-shirts ? Non, finalement, je mets toujours les 5 mêmes. Est-ce que j'ai besoin d'avoir 3 kilos de viande par semaine ? Non, finalement, 1 kilo, ça peut me suffire. Et au final, acheter 3 kilos de viande en grande surface ou 1 kilo chez Laurent à Palavas... ça te coûtera le même prix et tu vas être sûr de la qualité, tu vas avoir ce raisonnement de dire ma viande elle vient de l'Aubrac plutôt que de venir de Roumanie et mes légumes ils viennent de Moyo plutôt que de venir d'Espagne, même si il y a des très bons fruits et légumes en Espagne, on en a aussi en France, donc après la France ça coûte plus cher, il y a plus de taxes, il y a plus de trucs, mais voilà, c'est plus de ce questionnement sur si tout le monde fait un petit pas comme ça, peut-être que justement pour nos enfants, on arrivera à se dire et du coup, on aura moins mal au dos, on viendra pour de la prévention chez son ostéo.
On peut tout relire. Regarde, on disait tout à l'heure qu'il fallait marcher et tu parlais d'un de tes amis qui faisait partie d'une association pour ramasser les déchets. En fait, on peut facilement lier les deux. Quand tu vas te promener au bord de la plage, t'en profites pour ramasser les déchets que tu trouves sur ta route et comme ça, t'allies le côté sport, etc., le fait de bouger ton corps avec une action positive pour la planète.
Il y a un hashtag là qui était sorti pendant le nouveau confinement. Je nettoie mon kilomètre ou
tu sors à
un kilomètre avec ton gamin, sans ton gamin, tu prends une paire de gants et un sac poubelle et voilà, tu vas ramasser. Mais si tous on commence à le faire, enfin voilà, il y a pas de. Le problème c'est qu'aussi en France, je pense, on a en France ou peut-être ailleurs.
Attends, toujours fait peur des autres.
Ouais, puis on a peur de dire les choses quoi. Quand on voit quelqu'un qui jette une clope. Il faut peut-être la moindre des choses, c'est d'aller lui dire tenez, vous avez fait tomber ça. Mais c'est hyper compliqué à dire. En plus maintenant, il y a que des fous, des gens qui se trimballent avec des couteaux. À Palavas encore, une semaine, on est en train de virer Chicago ici.
Un retraité qui a poignardé un jeune de 30 ans parce que son chien avait attaqué son chien.
Donc voilà, il faut quand même faire attention. Si vous le faites à Palavas, faites gaffe, toi. Mais déjà, vous pouvez aller sur la plage avec une association. Pour vous balader en groupe et ramasser
même sans association hein,
même sans association mais voilà tourner, c'est bien de les soutenir parce qu'ils ont voilà ils ont une
elle s'appelle comment d'ailleurs
Océane Protection France
ouais
et c'est palavasien, c'est fait par quelqu'un de Palavas et voilà ils ont un petit local maintenant, je sais pas si t'as vu quand tu rentres dans Palavas
non j'ai pas fait attention
au rond-point à côté de Vaguevent, ils ont un petit local là, ils ont fait des petites cahutes là.
Ok, mais je savais pas que c'était pour
ben
ça.
Voilà, ils ont un de leurs locaux là. Et ouais, non, mais c'est parce que c'est toujours pareil en groupe, on a un peu plus de poids que seul.
Non, c'est vrai. Et puis c'est plus amusant.
Ouais, puis voilà, il y a vraiment ce côté le dicton qui dit seul on va plus vite et à plusieurs on va un peu plus loin, quoi. Donc peut-être que là j'ai vu qu'il y a un de ses collègues, là, le Marseillais, l'anglais Marseillais là. Je sais pas si tu connais la Edmund Blatt, qui est parti à pied de Marseille jusqu'à Paris en ramassant au bord de la route, tous les masques trouvés.
D'accord, non, j'en ai pas entendu parler.
Voilà,
mais
pareil, les masques là, ça va être une catastrophe pour revenir à notre sujet écologique. Ça va être une catastrophe écologique à venir, quoi. Entre la production et le traitement du déchet derrière.
Non, c'est sûr, moi hyper intéressant en tout cas. Je suis totalement en phase avec toi. Et puis c'est vrai que le fait de le faire à plusieurs, en plus du côté écologique et du fait de marcher, tu gagnes en plus le bienfait pour ta santé mentale de faire une action, d'avoir l'impression de contribuer à quelque chose de plus grand que toi et ensemble. Et donc cette espèce d'émulation collective, d'intelligence collective qui vise à rendre le monde meilleur, je pense, te donne un sentiment, te rend plus optimiste, plus heureux et potentiellement t'aide à vivre en meilleure santé aussi. Et justement, pour essayer de raccrocher à la santé, il y avait un dernier sujet dont que je voulais aborder avec toi, c'était le Terragun. Je sais que toi, t'as un hypervolt. Donc, c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est une espèce de pistolet à percussion. Est-ce que tu peux expliquer comment ça marche, à quoi ça peut servir?
C'est usage personnel.
Oui.
C'est un moteur de scie sauteuse hein, qu'il y a dedans, donc qui crée une percussion assez rapide ou d'une boule ou d'un pic ou d'un petit plat de massage pour détendre une zone. Donc l'application, elle est uniquement musculaire. Sur les gros muscles, c'est plus confortable. Dès que le muscle est un petit peu plus fin et donc il y a moins d'épaisseur par rapport à l'os, c'est un peu plus douloureux parce qu'on vient écraser. Mais en fait, ça revient à faire du massage. Hein. Donc là, on est peut-être depuis une dizaine d'années là. Il y a les rouleaux de massage qui sont sortis, il y a les barres de massage, il y a les cannes de massage, il y a le Terragun. Donc le Terragun, c'est la marque d'un des fabricants de pistolets.
Voilà.
J'ai Hypervolt d'Hyper Ice. Je le trouve plus silencieux, mais enfin, il a un peu moins de modularité que le Terragun. Ils ont tous un peu leur l'action, elle est vraiment dans la détente musculaire. Hein.
La détente musculaire, du coup, ça irrigue un peu tous les fascias,
etc. C'est comme un massage. Donc, sauf que tu peux te le faire
tous les jours,
et tout seul, surtout quand c'est pas ton métier. Bah voilà, masser, ça fait vite mal. Aux mains, t'es crispé, t'es raide. Bon, le Terragun, voilà, même un opérateur type ta compagne ou ta femme peut très bien te le faire dans le dos. Voilà, il y a un guidage assez facile. Moi, c'est vrai que c'est un outil que quand j'avais le droit de jouer au basket parce que c'était ouvert, donc que je rentrais avec ma vieille carcasse, j'adorais me passer une demi-heure à me masser au Terragun parce que même si j'ai la chance d'avoir une ostéo à la maison. Elle est pas kinée, et voilà.
Puis elle a déjà fait ça toute la journée, elle a peut-être pas envie de recommencer.
Elle a fait ça, c'est ça, mais voilà, c'est un outil, je trouve, pas mal, encore un peu cher.
Ouais.
Mais bon, sur Wish ou quoi, ça se trouve, bon, je te garantis pas la
qualité du truc.
Ouais, la durée de vie. Mais ouais, c'est sûr que sur Terragun ou Hyper Ice, t'as des trucs qui sont là pour des années. Hein.
Et il y a d'autres outils de ce type-là que tu as découvert et qui ont un petit peu changé ta vie ou en tout cas qui ont amélioré tes routines quotidiennes.
Je crois que tu avais été un des testeurs, hein, les ventouses.
Donc
j'aime bien. Bah moi j'ai encore des, tu vois, j'ai eu droit la semaine dernière là pour quelques douleurs cervicales. Donc c'est un peu comme le Terragun, hein. C'est pour irriguer, pour détendre.
Tu peux expliquer un peu comment ça marche?
Les ventouses, à la base, ça a des millénaires. Hein, c'est les Chinois, comme beaucoup de choses qui étaient en avance. Hein, c'est l'idée de faire le vide dans un petit récipient.
Mm-hmm.
Donc à l'époque, c'était un récipient. Enfin, ça se fait encore. Hein, un petit récipient en verre, un coton imbibé d'un combustible. Et en fait, le fait d'enflammer le coton dans la petite soucoupe en verre, ça crée le vide dans la petite coupole. Et après, on l'a placé sur la peau. Et ce vide-là crée une aspiration, un peu comme un petit suçon, donc qui crée une irrigation. Maintenant, on a évolué, donc on a remplacé par des coupoles en plastique et un petit pistolet pneumatique qui permet de faire le vide, en fait, d'aspirer l'air. Donc, on irrigue un petit peu. En ramenant du sang.
Et donc ça, tu l'utilises quand t'as des contractures musculaires, surtout pour ça.
Ouais. Je l'utilise à la base.
Là, par exemple,
sur moi, ouais, c'était pour les contractures musculaires.
Okay.
Ouais. Des tensions, de la douleur, donc ça équivaut à du massage en accéléré quand tu peux pas aller chez le kiné ou quoi. Ben voilà, ça permet un petit peu d'accélérer le processus.
Ok. Et du coup, ça a trait un peu à la médecine chinoise et justement, ça me fait penser à une question. L'ostéopathie, ça devient quand même de plus en plus populaire. Est-ce qu'il y a d'autres médecines qui te semblent intéressantes et qui sont encore méconnues actuellement ou...
Toutes.
Ah,
ouais, non, mais vraiment, il y a. Moi, je vois, Caro est ostéo, mais elle fait aussi énormément. Du coup, maintenant, quasiment exclusivement de la médecine chinoise. Donc, c'est une variance de sa technique d'ostéopathie qu'elle a adaptée avec autre chose. Mais elle va arriver à traiter des symptômes un petit peu plus profonds que ceux que moi, j'arrive à traiter. Donc, on remplace rien, on n'est pas à la place d'un traitement. On va à chaque fois... dans une pathologie ou quoi, essayer de ramener de la qualité de vie à notre patient, que ce soit grave ou pas grave, quoi. C'est si on peut arriver nous avec nos techniques à améliorer un petit peu, sans dire qu'on soignera rien, mais juste en améliorant un petit peu que le patient il sorte, il est mieux qu'en entrant. Ben voilà, c'est le plus important. que ce soit de la sophrologie, que ce soit de la méditation, que ce soit de la naturopathie, nous on a des cousins, des ostéos qui sont les chiro, qui sont les éthiopathes. Il faut que ça soit adapté aux patients. C'est sûr qu'un petit nourrisson de 5 jours, un papy de 90 ans et un sportif de 30 ans, je vais pas utiliser les mêmes outils et les mêmes techniques pour eux. Donc il faut que ça soit, il y a des gens ici, j'ai suivi à une période l'équipe de rugby. Les mecs, si tu leur faisais pas craquer le dos, ils te disaient le lendemain, ils te rappelaient, ça a pas marché, tu vois, ça a pas
craqué. Juste pour le côté psychologique.
Juste pour le côté psychologique. Donc il faut vraiment trouver le truc qui te va, quoi. Moi, il y a des patientes, c'est surtout les femmes, je pense. Leur premier truc, c'est, est-ce que, question à moi, bon, vous me voyez pas, mais bon, je fais 1m96.
Il y aurait une photo.
1m96 et plus de 100 kilos. Donc,
est-ce
voilà.
Est-ce que vous faites du rugby?
Non, mais la question, par contre, j'ai peur de, quand ça craque, machin, truc. Et le bonheur, il est de les amener au fait, justement, de leur amener ce petit craque, qui est rien de bien méchant en soi.
C'est quoi alors, ce petit craque?
C'est un bruit de cavitation articulaire. Donc, c'est en fait, tu fais, tu fais le vide dans l'articulation et à un moment donné il y a un échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur. Donc c'est pas dangereux, c'est de l'écartement articulaire à chaque fois, c'est comme le petit claque de ton doigt. Dans 10 minutes mon doigt il a pas de problème, dans 10 minutes je referai la même chose et mon doigt il recraquera, c'est juste parce que j'ai rajouté de la pression dans l'articulation. Mais ça fait pas mal, donc c'est sûr que si tu fais ça, si quelqu'un vient pour un torticolis, qu'à froid, tu t'es à peine serré la main et tu t'envoies déjà essayer de faire craquer des cervicales, ça, les préliminaires, ils ont été un peu courts, quoi. Hein, donc voilà, mon travail, il est beaucoup dans la détente, la préparation de la technique pour essayer de faire le moins de techniques possible, mais les techniques de bonne qualité et surtout vraiment ciblées sur ce que je pense être important pour le patient.
C'est pour ça que tu leur demandes d'expirer longuement quand tu vas faire craquer, c'est pour les aider à se détendre
ou c'est un moment de relâchement en fait, l'expiration. Hein. Donc c'est comme dans un étirement, souvent quand si tu veux gagner sur un étirement, il faut pas le faire en inspiration, il faut souvent le faire en expiration. Mais oui, après les patients maintenant, ils sont un peu habitués aussi à ça. Donc il faut arriver à les surprendre parce qu'il y a toujours selon la position, le patient est jamais relâché à 100%. Donc maintenant, tu leur dis de souffler, ils savent très bien ce qui va se passer quand ils vont souffler. Donc des fois, il faut les prendre sur l'inspiration, il faut les prendre sur le moment où c'est en train de changer, le faire une deuxième fois, voilà, faire croire que tu vas pas le faire. Donc voilà, mais c'est un peu pareil pour tout, hein, que ce soit pour du structurel, parce que c'est ce qu'on connaît peut-être le plus. On se dit, ouais, je vais voir l'ostéo, il va me faire craquer. Mais il y a des techniques musculaires, il y a des techniques fonctionnelles. Il y a des techniques de mécanique, de pompage ou de percussion. Enfin voilà, il y a vraiment plein d'outils. Et la chance de notre boulot, c'est de sortir de nos 5 ans d'études et d'avoir une boîte à outils avec quelques trucs dedans. Et puis après, ton expérience, les formations que tu vas faire, les rencontres que tu vas faire vont faire que tu vas rajouter des outils et que tu vas utiliser pour tel ou tel patient.
Après, même si dans un cas donné, le craquement est pas l'outil le plus adapté, je suppose que tu le fais toujours au moins une petite fois pour donner peut-être pour le côté psychologique qu'il peut apporter aux patients.
Non, ça dépend. Non, ça dépend. Ouais. Ça dépend. Je reviens sur ça. Hein, ça dépend de l'âge. Ça dépend du besoin. Souvent, moi, ce que j'aime dans l'articulaire, donc dans le structurel, le fait de faire craquer, c'est que c'est pour le patient. Même quand il a mal, c'est quelque chose, une technique qui va vite.
Ouais. Et puis, t'as un sentiment de libération, je trouve. Après, il est peut-être complètement placebo, hein.
Sûrement, mais de toute façon,
tu le ressens.
Ma séance, il y a un énorme effet placebo aussi, hein. Quand un patient, il se rhabille et que tu lui dis, vous allez voir, dans 2-3 jours, c'est bon, vous êtes sur pied, on se revoit dans 3 semaines, pour vérifier votre état. Et,
c'est conditionné psychologiquement.
Bon, dans 2-3 jours, ça devrait aller. Tu vois, déjà, si tu utilises cette forme-là de phrase, le patient il va se dire oh, « Pourquoi il me dit que ça devrait aller ? Il y a une chance que ça aille pas, du coup. » Et donc, dans la tête, automatiquement, déjà, t'as pas fait le même travail et le même schéma pour le focaliser sur le fait qu'il va aller bien et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas bien. S'il fait ce qu'il faut, s'il va marcher, s'il mange bien, s'il se tape pas la tête contre les murs et s'il évite de porter une caisse de 150 kilos.
Et si on veut profiter de ton expérience pour aller mieux, comment est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter ou suivre une formation parce que tu dis que tu avais un organisme de formation aussi.
Pour la partie ostéo au cabinet, c'est ou par téléphone ou sur Doctolib en me cherchant Mathieu Le Turc
à Palavas.
Voilà, ou Caroline d'ailleurs avec qui est aussi sur Doctolib maintenant. Et après pour la partie formation, donc c'est réservé aux ostéos ou aux étudiants en fin de cycle. C'est l'organisme qui s'appelle IFFCO, c'est Institut français de formation continue en ostéopathie. Et voilà, pareil, on a un site internet avec cette saison, on a 37 formations prévues.
Super.
Donc ça fait quelques week-ends, ça va faire quelques...
Avec des intervenants différents chaque fois ?
Avec des intervenants différents, non, on a des intervenants qui reviennent où on fait plusieurs fois la formation dans l'année. Mais ouais, on a une vingtaine de noms, je pense, cette
année.
C'est
tous des ostéos ou il y a plusieurs corps de métier?
On a des ostéos, on a des kinés, on a des chirurgiens,
super.
On a des gynécos, sages-femmes.
C'est vachement intéressant cette ouverture.
Ouais, on varie. Bah, nous,
pluridisciplinaire,
ouais, on en a besoin en fait, hein, parce que comme je te dis, moi, je bosse seul à mon cabinet. Je sais pas ce qui se passe chez le kiné. Si moi, je me fais pas mal, je sais pas ce qui se passe chez le kiné, chez le médecin. Et je trouve que c'est hyper important pour nous de savoir. Comme on a été formé à l'ostéopathie et uniquement à l'ostéopathie, on apprend un métier et on ne sait pas ce qui se passe chez nos collègues et chez qui on envoie nos patients. Moi, un ostéo qui vient pas se présenter à moi alors qu'il s'installe ici, il y a aucune raison que je lui envoie un patient ne sachant pas qui c'est, ne sachant pas comment il travaille. C'est pareil pour les médecins, c'est pareil pour les kinés. Voilà, d'envoyer un kiné après avoir un retour négatif ou alors un retour positif, c'est hyper important parce que tu sais que derrière tu peux renvoyer du monde et que les patients ils seront pris en charge. Donc voilà, déjà de savoir ce qu'il fait, quelle technique il utilise, quel outil il a, quel matériel il a dans son cabinet, c'est hyper important pour aiguiller pour telle ou telle pathologie. Donc ouais, c'est sympa de se dire qu'il y a quand même des chirurgiens aussi, même si c'est moyen en rémunération, qui prennent leur temps pour venir parler à 20 ou 25 ostéos en phase 2. Voilà, qui ont pas leurs compétences, un chirurgien orthopédique ou gynéco, c'est 13 ans d'études, et c'est des gens qui sont hyper humbles. Souvent, on se dit, ouais, le chirurgien, il se prend pour Dieu. Non, c'est souvent l'inverse. Moi, je le vois avec l'expérience en formation. C'est souvent les ostéos qui ont des melons énormes et les chirurgiens qui sont très humbles et qui ont justement, ils ont la quarantaine, ceux avec qui je bosse, donc, qui ont envie de savoir, mais ouais, qu'est-ce que vous faites, quoi, c'est génial, ah, ça, vous arrivez à...
J'ai envie de partager, de
ouais, tu vois, quand un chir, il te dit, oh, putain, c'est génial, vous arrivez à gérer telle ou telle pathologie, voilà, à prendre en charge ces patients-là, bah, c'est cool, tu vois, bah, tu te dis, ouais, bah, quand même, quoi, tu vois, c'est quand même gratifiant, ouais, de te dire que t'as la pointe de l'épée qui te dit, ouais, c'est cool ce que vous faites, merci d'avoir géré cette patiente, voilà, et des fois ça peut éviter des opérations, l'opération c'est pas automatique, mais nous il faut aussi qu'on sache dire non, attendez, là vous filez, voilà, c'est pas pour nous, hein. Parce que, malheureusement, le fait du système de santé français, maintenant les gens viennent nous voir de plus en plus en première intention, donc des fois on a un peu aussi des urgences qui sont pas des urgences ostéopathiques, quoi. Déjà, le terme d'urgence en ostéopathie, il est censé...
Ne pas exister.
Hein. Si le patient utilise le mot urgence, il faut qu'il aille aux urgences, quoi. Non, mais ça, c'est un truc que t'apprends en vieillissant ostéopathiquement, hein, parce qu'après, tu passes à côté, ça m'est arrivé, ça arrive à tous.
Parce que t'as des gens qui sont venus avec des problèmes graves,
ah ouais,
qui relevaient justement des urgences, et qui sont venus en... Ah oui, d'accord. Ouais.
Plein, il faut arriver à faire le tri. Après, des fois, tu passes à côté aussi. Voilà, rien de... catastrophique, mais
oui, j'imagine, si tu viens de te couper le pied, tu vas pas quand même.
Ouais, mais voilà, ça peut arriver. Enfin, tu vois, sur des croisés, sur des trucs, on créera. C'est déjà pété, tu vois. On créera rien de plus grave, mais sauf que on prendra 50 euros à des gens qui avaient pas besoin de perdre 50 euros à ce moment-là, quoi. Donc voilà, il faut se dire, il faut que nous aussi dans notre clinique, on soit bon, on arrive à voir les choses. Même si des fois tu vois pas tout, t'as pas l'examen, le patient aussi se met dans une telle condition que voilà, il dit pas tout, toi t'arrives pas à bien déchiffrer ce qu'il dit, donc ouais, il faut qu'on arrive à rester lucide par rapport à ça, pour ne pas nuire, quoi. Hein. C'est vraiment, nous, on nous a formaté à, avant d'être de bons ostéos, on nous a formaté à surtout ne pas être de mauvais ostéos, quoi. Mmh. Donc à pas faire de mal, plus mal à notre patient, en fait. Donc ça, après, c'est l'expérience, c'est le flair, mais bon, tu passes toujours à côté d'un truc, à côté de quelque chose que le patient ne dit pas. Enfin, tu vois, combien de fois ça t'arrive de dire, mais vous êtes sûr, il n'y a pas eu d'opération, non, rien. T'ouvres, le patient, il se déshabille, il y a une balafre, du menton jusqu'au nombril.
Oui, non, mais ça, c'était il y a 20 ans, ça. Non, mais
ça, j'ai eu une greffe cardiaque, là, il y a 4 mois. Sérieux, et pour vous, quand je vous demande si vous avez des opérations, ça vous vient pas, tu vois. Donc voilà, il y a rien de grave, mais toi, dans ta réflexion, c'est normal que derrière il ait des tensions au niveau du sternum et que tu pars déjà en te disant que tu pourras pas tout régler. Mmh. Et qu'il y a une logique à pourquoi il a ce problème là. Donc bon, après, c'est pour ça, c'est important de
ouais, il y a un côté psychologie aussi, c'est important, ouais. Quoi. Comme dans toutes les comme pratiques tout, médicales, hein. Oui, mais même partout, toi, partout.
Toi, dans la RH.
Ouais, ça, c'est clair.
Voilà, c'est de l'échange humain. Moi, je pense que je suis pas fait pour tous les patients. Tu vois, parce que le feeling, voilà, c'est hyper important. On a un métier de confiance. Si le feeling passe pas, ben, le patient, ça sert à rien qu'il revienne derrière. Mon discours lui plaît pas ou qu'il est venu pour que je lui fasse craquer,
c'est un peu comme avec un psy, tu vois, on dit souvent qu'il faut trouver le bon psy pour toi, qu'il y a pas de bon psy dans l'absolu, mais qu'il y a un bon psy pour toi. Ben, c'est un peu pareil avec l'ostéo, il faut trouver l'ostéo qui te convient, avec qui tu vas te sentir en confiance et dont le discours va te parler.
Ouais, ben ça revient un peu à ce qu'on disait, hein. Il faut essayer de se sentir le mieux possible, mais que ce soit dans sa vie, que ce soit dans son couple, que ce soit avec les gens qui t'entourent, quoi. Les gens négatifs, il faut essayer de les laisser de côté et te mettre plutôt avec des gens positifs, mais que ce soit un ostéo, que ce soit un psy, ou que ce soit on va revenir sur la viande quand même pour faire un peu de promo, mais que ce soit avec le boucher du coin, voilà, si c'est un con, tu vas acheter ta viande ailleurs, quoi.
Ouais, c'est vrai.
Il faut le reporter.
Est-ce qu'il y a quelque chose dont j'ai pas parlé et que tu aurais trouvé important d'aborder?
Ben non, je pense qu'on a.
Ouais, on a fait un tour.
On a fait un tour, on a bien dévié sur notre côté futur écolo, futur végétarien.
C'est ça qui intéresse.
Non, c'est vraiment revenir sur le fait de voilà, pour tous les on va dire les patients potentiels, si vous voulez limiter au maximum. Vos mots, c'est vous écouter, bouger, et voilà, essayer de bien comprendre que c'est pas qu'une chose qui va faire que vous allez bien, quoi. C'est vraiment une petite goutte plus une petite goutte qui vont faire que le vase il va se remplir. Malheureusement, un jour il y aura 7 gouttes de trop qui va faire que le vase va déborder et qui va vous créer des problèmes. Mais voilà, vraiment toujours cette notion d'équilibre dans la vie perso, dans la vie pro, dans les loisirs, pour arriver à fonctionner du mieux possible. On peut pas être dépressif et aller bien dans son corps, et on peut pas avoir des douleurs tous les jours au niveau musculo-squelettique et être bien dans sa tête. C'est un travail, la dissociation, elle est réservée à quelques élus, mais elle est très très compliquée, quoi. Donc voilà, vraiment d'avoir cette vision d'ensemble, de pas se dire, moi je vais parler pour moi, mais de pas se dire, je suis déprimé depuis 10 ans, je vais aller chez l'ostéo, c'est bon, il va m'enlever toutes mes douleurs à la nuque, quoi. Non, c'est pas possible. Et si vous prenez des antidépresseurs, ça va être pire, puisque c'est des poisons musculaires, donc on va avoir encore plus de mal à sortir de ce cercle vicieux. Donc c'est vraiment une gestion pluridisciplinaire.
Le corps et l'esprit sont toujours liés.
Toujours. Toujours. Et de toute façon, hein, c'est le cerveau qui décide de tout. Ouais. Hein, donc si tu lui donnes pas les bonnes infos, lui, il intégrera pas les nouvelles données. Moi, je parle souvent de mise à jour. Mais voilà, hein, si lui, il est pas apte à recevoir la mise à jour, t'as beau traiter, et tu passeras toujours à côté.
Ça va bugger.
Ouais. Heureusement, ça arrive pas trop souvent, mais ça arrive, quoi.
Bon, bah écoute, merci Mathieu, c'était un échange très enrichissant, très intéressant.
Et merci à toi pour ta confiance, pour m'avoir fait découvrir aussi ce qui a beaucoup fait rigoler ma femme.
L'exercice du podcast.
Le podcast déjà en soi, et encore plus l'exercice du podcast.
Bon, bon, en tout cas, tu t'en es sorti à merveille.
Bon, ben, merci beaucoup.
Merci Mathieu.
Bye.
Bravo, tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux être sûr de ne rien oublier, retrouve le résumé de l'épisode et tous les hacks de mon invité du jour sur limitless-project.com. Mais avant, pense à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application de podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail et de m'aider à convaincre de nouveaux invités de venir partager leurs secrets.